Chapitre 15. Le matin, vers 6 heures, un domestique du préfet frappait à la maison d'Orso. Reçu par Colomba, il lui dit que le préfet allait partir et qu'il attendait son frère. Colomba répondit sans hésiter que son frère venait de tomber dans l'escalier et de se fouler le pied. Qu'étant hors d'état de faire un pas, il suppliait monsieur le préfet de l'excuser et serait très reconnaissant s'il daignait prendre la peine de passer chez lui. Peu après ce message, Orso descendit et demanda à sa sœur si le préfet ne l'avait pas envoyé chercher. « Il vous prie de l'attendre ici, » dit-elle avec la plus grande assurance. Une demi-heure s'écoula sans qu'on aperçût le moindre mouvement du côté de la maison des Baricini. Cependant, Orso demandait à Colomba si elle avait fait quelque découverte. Elle répondit qu'elle s'expliquerait devant le préfet. Elle affectait un grand calme, mais son teint et ses yeux annonçaient une agitation fébrile. Enfin, on vit s'ouvrir la porte de la maison Baricini. Le préfet, en habit de voyage, sortit le premier, suivi du maire et de ses deux fils. Quelle fut la stupéfaction des habitants de Pietranera, aux aguets depuis le lever du soleil, pour assister au départ du premier magistrat du département, lorsqu'ils le virent, accompagné des trois Baricini, traverser la place en droite ligne et entrer dans la maison dell'Arabia. « Ils font la paix !» s'écrièrent les politiques du village. « Je vous le disais bien !» ajouta un vieillard. « Orso Antonio a trop vécu sur le continent pour faire les choses comme un homme de cœur. »« Pourtant, » répondit un rébianiste, « remarquez que ce sont les Baricini qui viennent le trouver. Ils demandent grâce. » « C'est le préfet qui les a tous embobelinés, » répliqua le vieillard. « On n'a plus de courage aujourd'hui, et les jeunes gens se soucient du sang de leur père comme s'ils étaient tous des bâtards. » Le préfet ne fut pas médiocrement surpris de trouver Orso debout et marchant sans peine. En deux mots, Colomba s'accusa de son mensonge et lui en demanda pardon. « Si vous aviez demeuré ailleurs, monsieur le préfet, » dit-elle, « mon frère serait allé dès hier vous présenter ses respects. » Orso se confondait en excuses, protestant qu'il n'était pour rien dans cette ruse ridicule dont il était profondément mortifié. Le préfet et le vieux Baricini parurent croire à la sincérité de ses regrets, justifiés d'ailleurs par sa confusion et les reproches qu'il adressait à sa sœur. Mais les fils du maire ne parurent pas satisfaits. « On se moque de nous, » dit Orlandoccio, assez haut pour être entendu. « Si ma sœur me jouait de ses tours, » dit Vicentello, « je lui ôterais bien vite l'envie de recommencer. » Ces paroles et le ton dont elles furent prononcées déplurent à Orso et lui firent perdre un peu de sa bonne volonté. Il échangea avec les jeunes Baricini des regards où ne se peignait nulle bienveillance. Cependant, tout le monde était assis, à l'exception de Colomba, qui se tenait debout près de la porte de la cuisine. Le préfet prit la parole et, après quelques lieux communs sur les préjugés du pays, rappela que la plupart des inimitiés les plus invétérés n'avaient pour cause que des malentendus. Puis, s'adressant au maire, il lui dit que M. dell'Arabia n'avait jamais cru que la famille Baricini eût pris une part directe ou indirecte dans l'événement déplorable qu'il avait privé de son père. Qu'à la vérité, il avait conservé quelques doutes relatifs à une particularité du procès qui avait existé entre les deux familles. Que ce doute s'excusait par la longue absence de M. Orso et la nature des renseignements qu'il avait reçus. Qu'éclairé maintenant par des révélations récentes, il se tenait pour complètement satisfait et désirait établir avec M. Baricini et ses fils des relations d'amitié et de bon voisinage. Orso s'inclina d'un air contraint. M. Baricini balbutia quelques mots que personne n'entendit. Ses fils regardèrent les poutres du plafond. Le préfet, continuant sa harangue, allait adresser à Orso la contrepartie de ce qu'il venait de débiter à M. Baricini, lorsque Colomba, tirant de dessous son fichu quelques papiers, s'avança gravement entre les parties contractantes. « Ce serait avec un bien vif plaisir, dit-elle, que je verrais finir la guerre entre nos deux familles. Mais pour que la réconciliation soit sincère, Il faut s'expliquer et ne rien laisser dans le doute. Monsieur le préfet, la déclaration de Tommaso Bianchi m'était à bon droit suspecte venant d'un homme aussi mal famé. J'ai dit que vos fils, peut-être, avaient vu cet homme dans la prison de Bastia. « Cela est faux, » interrompit Orlanduccio, « je ne l'ai point vu. » Colomba lui jeta un regard de mépris et poursuivit avec beaucoup de calme en apparence. « Vous avez expliqué l'intérêt que pouvait avoir Tommaso à menacer M. Baricini au nom d'un bandit redoutable par le désir qu'il avait de conserver à son frère Théodore le moulin que mon père lui louait à bas prix. « Cela est évident, » dit le préfet. « De la part d'un misérable comme paraît être ce Bianchi, tout s'explique, » dit Orso, trompé par l'air de modération de sa sœur. La lettre contrefaite, continua Colomba, dont les yeux commençaient à briller d'un éclat plus vif, est datée du 11 juillet. Tommaso était alors chez son frère, au moulin. « Oui, » dit le maire, un peu inquiet. « Quel intérêt avait donc Tommaso Bianchi ?» s'écria Colomba d'un air de triomphe. « Le bail de son frère était expiré. Mon père lui avait donné congé le 1er juillet. Voici le registre de mon père, la minute du congé, la lettre d'un homme d'affaires d'Ajaccio qui nous proposait un nouveau meunier. » En parlant ainsi, elle remit au préfet les papiers qu'elle tenait à la main. Il y eut un moment d'étonnement général. Le maire pâlit visiblement. Orso, fronçant le sourcil, s'avança pour prendre connaissance des papiers que le préfet lisait avec beaucoup d'attention. « On se moque de nous !» s'écria de nouveau Orlanduccio, en se levant avec colère. « Allons-nous-en, mon père, nous n'aurions jamais dû venir ici !» Un instant suffit à M. Baricini pour reprendre son sang-froid. Il demanda à examiner les papiers. Le préfet les lui remit sans dire un mot. Alors, relevant ses lunettes vertes sur son front, il les parcourut d'un air assez indifférent pendant que Colomba l'observait avec les yeux d'une tigresse qui voit un daim s'approcher de la tanière de ses petits. « Mais, » dit M. Baricini, rabaissant ses lunettes et rendant les papiers au préfet, « connaissant la bonté de feu, monsieur le colonel, Tommaso a pensé, il a dû penser, que monsieur le colonel reviendrait sur sa résolution de lui donner congé. De fait, il est resté en possession du moulin, donc... C'est moi, dit Colomba d'un ton de mépris, qui le lui ai conservé. Mon père était mort, et dans ma position, je devais ménager les clients de ma famille. Pourtant, dit le préfet, ce Tommaso reconnaît qu'il a écrit la lettre, cela est clair. Ce qui est clair pour moi, interrompit Orso, c'est qu'il y a de grandes infamies cachées dans toute cette affaire. J'ai encore à contredire une assertion de ces messieurs, dit Colomba. Elle ouvrit la porte de la cuisine et aussitôt entrèrent dans la salle Brandolaccio, le licencié en théologie, et le chien Brusco. Les deux bandits étaient sans armes, au moins apparentes. Ils avaient la cartouchière à la ceinture, mais point de pistolet qui en ait le complément obligé. En entrant dans la salle, ils ôtèrent respectueusement leurs bonnets. On peut concevoir l'effet que produisit leur subite apparition. Le maire pensa tomber à la renverse. Ses fils se jetèrent bravement devant lui, la main dans la poche de leur habit, cherchant leur stylet. Le préfet fit un mouvement vers la porte, tandis qu'Orso, saisissant Brandolaccio au collet, lui cria « Que viens-tu faire ici, misérable ?»« C'est un guet-apens !» s'écria le maire, essayant d'ouvrir la porte. Mais Saveria l'avait fermée en dehors à double tour, d'après l'ordre des bandits, comme on le sut ensuite. « Bonnes gens, dit Brandolaccio, n'ayez pas peur de moi, je ne suis pas si diable que je suis noir. Nous n'avons nulle mauvaise intention. Monsieur le préfet, je suis bien votre serviteur. Mon lieutenant, de la douceur, vous m'étranglez. Nous venons ici comme témoins. Allons, parle-toi, curé, tu as la langue bien pendue. » Monsieur le préfet, dit le licencié, je n'ai pas l'honneur d'être connu de vous. « Je m'appelle Giocanto Castriconi, plus connu sous le nom du curé. Ah, vous me remettez. Mademoiselle, que je n'avais pas l'avantage de connaître non plus, m'a fait prier de lui donner des renseignements sur un nommé Tommaso Bianchi, avec lequel j'étais détenu il y a 3 semaines dans les prisons de Bastia. Voici ce que j'ai à vous dire. Ne prenez pas cette peine, dit le préfet, je n'ai rien à entendre d'un homme comme vous. Monsieur Della Rebbia, j'aime à croire que vous n'êtes pour rien dans cet odieux complot, mais êtes-vous maître chez vous? Faites ouvrir cette porte. Votre sœur aura peut-être à rendre compte des étranges relations qu'elle entretient avec des bandits. Monsieur le préfet, s'écria Colomba, daignez entendre ce que va dire cet homme. Vous êtes ici pour rendre justice à tous, et votre devoir est de chercher la vérité. Parlez, Giocanto Castriconi. Ne l'écoutez pas, s'écrièrent en chœur les trois baricini. Si tout le monde parle à la fois, dit le bandit en souriant, ce n'est pas le moyen de s'entendre. Dans la prison, donc, j'avais pour compagnon, non pour ami, ce Tommaso en question. Il recevait de fréquentes visites de M. Orlanduccio. C'est faux, s'écrièrent à la fois les deux frères. Deux négations valent une affirmation, observa froidement Castriconi. Tommaso avait de l'argent. Il mangeait et buvait du meilleur. J'ai toujours aimé la bonne chère. C'est là mon moindre défaut. Et malgré ma répugnance à frayer avec ce drôle, je me laissais aller à dîner plusieurs fois avec lui. Par reconnaissance, je lui proposais de s'évader avec moi. Une petite, pour qui j'avais eu des bontés, m'en avait fourni les moyens. Je ne veux compromettre personne. Tommaso refusa. Me dit qu'il était sûr de son affaire, que l'avocat Baricini l'avait recommandé à tous les juges, qu'il sortirait de là blanc comme neige et avec de l'argent dans la poche. Quant à moi, je crus devoir prendre l'air. Dixi. Tout ce que dit cet homme est un tas de mensonges, répéta résolument Orlanduccio. Si nous étions en rase campagne, chacun avec notre fusil, il ne parlerait pas de la sorte. En voilà une de bêtises, s'écria Brandolaccio. Ne vous brouillez pas avec le curé, Orlanduccio. Me laisserez-vous sortir enfin, monsieur Della Rebbia, dit le préfet, frappant du pied d'impatience. Saveria, Saveria, criait Orso, ouvrez la porte de par le diable. Un instant, dit Brandolaccio. Nous avons d'abord à filer, nous, de notre côté. Monsieur le préfet, il est d'usage, quand on se rencontre chez des amis communs, de se donner une demi-heure de trêve en se quittant. Le préfet lui lança un regard de mépris. Serviteur à toute la compagnie, dit Brandolaccio. Puis, étendant le bras horizontalement, allons, Brusco, dit-il à son chien, saute pour monsieur le préfet. Le chien sauta. Les bandits reprirent à la hâte leurs armes dans la cuisine, s'enfuirent par le jardin et, à un coup de sifflet aigu, la porte de la salle s'ouvrit comme par enchantement. Monsieur Baricini, dit Orso avec une fureur concentrée, je vous tiens pour un faussaire. Dès aujourd'hui, j'enverrai ma plainte contre vous au procureur du roi pour faux et pour complicité avec Bianchi. Peut-être aurai-je encore une plainte plus terrible à porter contre vous. Et moi, monsieur Del Rebbia, dit le maire, je porterai ma plainte contre vous pour guet-apens et pour complicité avec des bandits. En attendant, monsieur le préfet vous recommandera à la gendarmerie. Le préfet fera son devoir, dit celui-ci d'un ton sévère. Il veillera à ce que l'ordre ne soit pas troublé à Pietranera. Il prendra soin que justice soit faite. Je parle à vous tous, messieurs. Le maire et Vicentello étaient déjà hors de la salle et Orlanduccio les suivait à reculons lorsqu'Orso lui dit à voix basse « Votre père est un vieillard que j'écraserai d'un soufflet. C'est à vous que j'en destine, à vous et à votre frère. » Pour réponse, Orlanduccio tira son stylet et se jeta sur Orso comme un furieux. Mais, avant qu'il pût faire usage de son arme, Colomba lui saisit le bras qu'elle tordit avec force, pendant qu'Orso, le frappant du poing au visage, le fit reculer quelques pas et heurter rudement contre le chambranle de la porte. Le stylet échappa de la main d'Orlanduccio, mais Vicentello avait le sien et rentrait dans la chambre, lorsque Colomba, sautant sur un fusil, lui prouva que la partie n'était pas égale. En même temps, le préfet se jeta entre les combattants. « À bientôt, Orsanton !» cria Orlanduccio, et, tirant violemment la porte de la salle, il la ferma à clé pour se donner le temps de faire retraite. Orso et le préfet demeurèrent un quart d'heure sans parler, chacun à un bout de la salle. Colomba, l'orgueil du triomphe sur le front, les considérait tour à tour, appuyé sur le fusil qui avait décidé de la victoire. « Quel pays ! Quel pays ! » s'écria enfin le préfet en se levant impétueusement. « Monsieur de l'Arabie, vous avez eu tort. Je vous demande votre parole d'honneur de vous abstenir de toute violence et d'attendre que la justice décide dans cette maudite affaire. » « Oui, monsieur le préfet, j'ai eu tort de frapper ce misérable, mais enfin, je l'ai frappé et je ne puis lui refuser la satisfaction qu'il m'a demandée. » « Et non, il ne veut pas se battre avec vous. Mais s'il vous assassine, vous avez bien fait tout ce qu'il fallait pour cela. »«
Nous nous garderons, » dit Colomba.
« Orlando, Cio dit Orso, me paraît un garçon de courage, et j'augure mieux de lui, monsieur le préfet. Il a été prompt à tirer son stylet, mais à sa place, j'en aurais peut-être agi de même. Et je suis heureux que ma sœur n'ait pas un poignet de petite maîtresse. »
« Vous ne vous battez pas !» s'écria le préfet. « Je vous le défends !»«
Permettez-moi de vous dire, monsieur, qu'en matière d'honneur, je ne reconnais d'autre autorité que celle de ma conscience. Je vous dis que vous ne vous battrez pas !»«
Vous pouvez me faire arrêter, monsieur, c'est-à-dire si je me laisse prendre. Mais si cela arrivait, vous ne feriez que différer une affaire maintenant inévitable. Vous êtes homme d'honneur, monsieur le préfet, et vous savez bien qu'il n'en peut être autrement. »
« Si vous faisiez arrêter mon frère, ajouta Colomba, la moitié du village prendrait son parti et nous verrions une belle fusillade. »«
Je vous préviens, monsieur, dit Orso, et je vous supplie de ne pas croire que je fais une bravade. Je vous préviens que, si monsieur Baricini abuse de son autorité de maire pour me faire arrêter, je me défendrai. » »«
Dès aujourd'hui, dit le préfet, monsieur Baricini est suspendu de ses fonctions. Il se justifiera, je l'espère. » « Tenez, monsieur, vous m'intéressez. Ce que je vous demande est bien peu de choses. Restez chez vous tranquille jusqu'à mon retour de Corte. Je ne serai que 3 jours absent. Je reviendrai avec le procureur du roi et nous débrouillerons alors complètement cette triste affaire. Me promettez-vous de vous abstenir jusque-là de toute hostilité ?»«
Je ne puis le promettre, monsieur, si, comme je le pense, Orlando je me demande une rencontre. »
« Comment, monsieur de l'Arabie, vous, militaire français, vous voulez vous battre avec un homme que vous soupçonnez d'un faux ?»«
Je l'ai frappé, monsieur. » »«
Mais si vous aviez frappé un galérien et qu'il vous en demande à raison, vous vous battriez donc avec lui ?»«
Allons, monsieur Orso. » »«
Eh bien, je vous demande encore moins. Ne cherchez pas, Orlando Cio. Je vous permets de vous battre s'il vous demande un rendez-vous. »
« Il m'en demandera, je n'en doute point.
Mais je vous promets de ne pas lui donner d'autres soufflets pour l'engager à se battre. »
« Quel pays ?» répétait le préfet en se promenant à grands pas. « Quand donc reviendrai-je en France ?»«
Monsieur le préfet, » dit Colomba de sa voix la plus douce, « il se fait tard. Nous feriez-vous l'honneur de déjeuner ici ?»
Le préfet ne put s'empêcher de rire. « Je suis demeuré déjà trop longtemps ici. Cela ressemble à de la partialité. Et cette maudite pierre, il faut que je parte. Mademoiselle de l'Arabie, que de malheur vous avez préparé peut-être aujourd'hui. »
« Au moins, monsieur le préfet, vous rendrez à ma sœur la justice de croire que ses convictions sont profondes. Et j'en suis sûr maintenant, vous les croyez vous-même bien établies. »
« Adieu, monsieur, dit le préfet en lui faisant un signe de la main. « Je vous préviens que je vais donner l'ordre au brigadier de gendarmerie de suivre toutes vos démarches. »
Lorsque le préfet fut sorti, « Orso, dit Colomba, vous n'êtes point ici sur le continent. Orlando Cio n'entend rien à vos duels, et d'ailleurs, ce n'est pas de la mort d'un brave que ce misérable doit mourir. »
« Colomba, ma bonne, tu es la femme forte. Je t'ai de grandes obligations pour m'avoir sauvé un bon coup de couteau.
« Donne-moi ta petite main que je la baise. Mais, vois-tu, laisse-moi faire. Il y a certaines choses que tu n'entends pas. Donne-moi à déjeuner. Et, aussitôt que le préfet se sera mis en route, fais-moi venir la petite Chilina qui paraît s'acquitter à merveille des commissions qu'on lui donne. J'aurai besoin d'elle pour porter une lettre. »
Pendant que Colomba surveillait les apprêts du déjeuner, Orso monta dans sa chambre et écrivit le billet suivant. « Vous devez être pressé de me rencontrer. Je ne le suis pas moins. Demain matin, nous pourrons nous trouver à 6 heures dans la vallée d'Aquavive. Je suis très adroit au pistolet, et je ne vous propose pas cette arme. On dit que vous tirez bien le fusil. Prenons chacun un fusil à 2 coups. Je viendrai accompagné d'un homme de ce village. Si votre frère veut vous accompagner, prenez un second témoin et prévenez-moi. Dans ce cas seulement, j'aurai 2 témoins. Orso Antonio della Rebbia. » Le préfet, après être resté 1 heure chez l'adjoint du maire, après être entré pour quelques minutes chez les Baricini, partit pour Corte, escorté d'un seul gendarme. Un quart d'heure après, Cilina porta la lettre qu'on vient de lire et la remit à Orlanduccio en propre main. La réponse se fit attendre et ne vint que dans la soirée. Elle était signée de M. Baricini père, et il annonçait à Orso qu'il déférait au procureur du roi la lettre de menace adressée à son fils. « Fort de ma conscience, ajoutait-il en terminant, j'attends que la justice ait prononcé sur vos calomnies. » Cependant, 5 ou 6 bergers mandés par Colomba arrivèrent pour garnisonner la tour des Della Rebbia. Malgré les protestations d'Orso, on pratiqua des arcaires aux fenêtres donnant sur la place, et, toute la soirée, il reçut des offres de service de différentes personnes du bourg. Une lettre arriva même du théologien bandit qui promettait en son nom et en celui de Brandolaccio d'intervenir si le maire se faisait assister de la gendarmerie. Il finissait par ce post-scriptum. « Oserais-je vous demander ce que pense monsieur le préfet de l'excellente éducation que mon ami donne au chien Brusco ? Après Cilina, je ne connais pas d'élève plus docile et qui montre de plus heureuses dispositions.